Je vous avais parlé la semaine dernière, enfin il y a 15 jours, 3 semaines, je ne sais plus, des étapes indispensables à la vie d'un disciple. Je vais revenir après. La première étape, c'était la repentance. La deuxième étape, c'était l'engagement par le baptême. La troisième étape, c'était être rempli du Saint-Esprit. En fait, en réalité, je vous en ai présenté 3, mais à la fin du mois, si ou dans le mois, dans la semaine qui vient, je vais vous présenter la 4e étape. Parce qu'en réalité, ces 3 étapes, ce sont les étapes initiales à la vie d'un disciple. Si vous n'avez pas ça, il vous manque quelque chose. Le critère du Nouveau Testament, ce sont ces 3 étapes. Il vous en manque une, vous loupez le but. Je suis clair. Nous ratons quelque chose lorsque nous loupons l'une de ces étapes. Si nous manquons la repentance, déjà, ça, c'est comme si vous vouliez démarrer votre voiture et vous ne mettiez pas le contact. Si vous ne vous engagez pas par le baptême à devenir un disciple, et 3, si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Pourquoi vous avez c'est indispensable, parce qu'on va voir qu'il y en a une 4e qui va nous permettre, enfin, c'est l'objectif 4, en fait. Quand on a ces 3 étapes dans notre vie, on peut atteindre l'objectif qui nous est fixé, qu'on va voir dans le texte après. Regardez, il est écrit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru, c'est le texte d'il y a 15 jours, 3 semaines, hein, je vous reprends le même texte. Paul, c'est le texte reçu pour Betsalel. Je le répète, je pèse mes mots quand je dis ça. C'est vraiment important. Reprenez-le, lisez-le chez vous. Méditez-le chez vous. Vérifiez que je ne dise pas de bêtises, comme les chrétiens de Béret, mais lisez-le et faites de ce texte votre texte. C'est vraiment important. Tout ce qui est dit, les 2 prédications, celle d'il y a 3 semaines et celle d'aujourd'hui, vont être revues dans les groupes de maison et vous allez en discuter. Il sera demandé aux responsables des groupes de maison de dire « Et toi, mon frère, ma sœur, tu es à quelle étape? Où en es-tu? Et qu'est-ce qu'on doit faire pour t'amener à l'étape suivante ?» Donc après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, il arriva à Éphèse. Et là, on a ce que j'aime, c'est l'implantation apostolique d'une église, d'un centre apostolique, on va le voir. J'aime beaucoup ça. Je voudrais que Betsalel devienne ça, en fait. Je peux vous le dire. Au fond de mon cœur, ça brûle, et je me dis, j'aimerais que Betsalel devienne Éphèse du Nord-Pas-de-Calais. Et pourquoi pas plus. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Non, la conversion, je voulais être tout le temps rempli du Saint-Esprit. » Non mais je vous assure, hein. Moi j'ai vécu ce qu'on appelle l'immersion dans le Saint-Esprit, et je vous ai déjà raconté, non, j'étais dans la Somme, qui connaît pas cette petite histoire, j'étais dans la Somme, Marise et moi nous venions de nous donner notre vie au Seigneur, et puis bon, comme ça a été pas mal chamboulé dans notre vie, les mois de notre avant notre conversion, ma belle-mère gentiment elle a dit, ben partez quelques jours à rue, là, elle avait un chalet en bois, là, enfin un mobil-home en bois. Et puis nous voilà partis. Et moi, on avait prié pour moi ce matin. Et puis l'immersion était tellement forte que je me mets à parler en langue. Et puis Geoffrey était tout petit, il avait 1 an, je crois, c'est ça. Il avait 1 an, Geoffrey. Et puis moi, il fallait que ça sorte, quoi. Et me voilà parti dans la campagne de la Somme. Et j'étais un peu comme David, vous voyez. Je commence à alléluia, et puis je criais en langue, je priais en langue, etc. Et je prophétisais, enfin je débordais de l'esprit. C'était une expérience extraordinaire. J'en ai vécu d'autres, mais celle-là, j'avoue que c'était la première, c'était vraiment extraordinaire. Et à un moment donné, j'étais en train de souffler, etc. Et puis je fais un truc comme ça, je me retourne, je tombe nez à nez avec une vieille dame qui était à sa fenêtre et qui me regardait, qui dit qui suis là. Ouais. Dieu parfois fait des choses qui sont contraires à notre bienséance. Peut-être qu'elle m'a pris pour un fou, mais moi en tout cas j'étais fou de Dieu. Et c'était extraordinaire. Donc voilà, c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Pourquoi je dis ça? Parce que après j'ai voulu vivre d'autres expériences. Et vous savez, c'était l'époque où il y avait des grandes réunions de réveil. Et clairement, vous savez ce que je faisais? Je prenais toujours la file du prédicateur. Jamais ceux qui étaient à côté, quoi, qui accompagnait le prédicateur. Parce que je disais, c'est lui qui doit me baptiser du Saint-Esprit. Et malheureusement, j'étais souvent déçu. Vous savez pourquoi ? Parce que j'allais vers l'homme et je n'allais pas vers Jésus. Parce qu'il est écrit, ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous baptise, ce n'est pas l'homme qui nous baptise, c'est Jésus qui nous baptise du Saint-Esprit. Les quatre évangiles le disent. Les quatre. Moi, je vous baptise d'eau, dit Jean. Mais celui qui vient après moi est plus grand que moi. Je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Waouh ! C'est vers Jésus que je dois me rendre. La preuve en est, Paul qui fut un grand apôtre, il a reçu le Saint-Esprit par qui ? Par un petit disciple qui s'appelait Ananias. C'est intéressant comme de noter ça. Et son ministère a été très grand, puissant. Il est écrit à Éphèse, là on ne le voit pas, mais que la puissance du Saint-Esprit était tellement sur Paul qu'on prenait même sa chemise, ses vêtements, et les démons sortaient et les gens étaient guéris. Waouh ! Qu'est-ce que Dieu est grand ! Et ça, ce n'est pas l'œuvre de l'homme, c'est l'œuvre de l'Esprit-Saint. Donc c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Alors il y a une promesse, parce que Jésus, la promesse a été faite. Jésus l'a rappelé, donc Jean-Baptiste fait la promesse. Jésus rappelle cette promesse, il dit, Jean vous a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, dit-il dans les livres des Actes, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Et cette promesse est accomplie le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, il y a un vent, un grand bruit, comme celui d'un vent impétueux qui remplit toute la maison où il était assis. Tiens, il y a quelque chose de physique qui est en train de se placer. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ça, j'aime beaucoup cette portion de phrase. Tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Trois choses. Concernant ce qui s'est passé là, concernant ce qui se passe dans notre propre vie lorsqu'il y a un baptême, une immersion dans l'esprit. Il s'agit d'un baptême. C'est un phénomène où tout est immergé. D'accord ? C'est pas juste un peu. Tu peux te rafraîchir à coup de, comment on appelle ça là, des brumisateurs. Maintenant, ils font ça dans les terrasses de café. C'est pas ça. C'est une douche qui te vient et qui rentre en toi. Il remplit toute la maison. Et ils furent tous remplis. C'est quelque chose de palpable physiquement. Il y a un phénomène physique qui arrive. Vous comprenez ce que je veux dire ? Après, je ne sais pas comment vous avez vécu ça, ou si vous l'avez vécu, et comment vous l'avez vécu. Moi, je vous dis ce qui est écrit dans la parole de Dieu, et après, c'est à vous de faire votre part. Et de dire, ben moi je l'ai pas vécu, ou moi je l'ai vécu, ou j'aimerais bien le revivre, enfin peu importe. Vous voyez, je vous présente ce qui est en train de se passer. La deuxième chose, c'est que chacun d'eux vit cette expérience. Ils se posèrent sur chacun d'eux. Elles se posèrent, ce sont les langues de feu. Ensuite, il y a un phénomène de débordement. Donc, un, il s'agit d'un baptême, vraiment d'une immersion. Il s'agit d'une expérience individuelle, bien qu'elle se passe dans un cadre collectif, d'accord ? Et trois, il y a un phénomène de débordement au point que leur bouche s'ouvre et ils disent, ils prophétisent, ils disent des choses. Voilà les signes de l'immersion dans l'esprit. Vous en faites ce que vous voulez, mais je vous dis, ce que dit la parole de Dieu, elle est là. Le Saint-Esprit, c'est comme un seau. Pas un seau. S-O-T, mais un seau. S-C-E-A-U. 1 Corinthiens. Celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un seau et a mis les arts de l'Esprit dans nos cœurs, les arts de l'Esprit. Le seau, c'est une marque. C'est-à-dire que quand, C'est comme si, vous savez, il est écrit dans l'Apocalypse que les gens auront le signe de la bête. Et ce signe, c'est 666, si je ne me trompe. Eh bien, je pense que Dieu, dans les temps de la fin, va marquer de son sceau encore plus son Église. Il y aura une différence entre l'Église, la vraie Église, pas l'Église officielle. Comprenez ? Pas ceux qui auront la marque sur la bête, sur leur front. Mais il y aura le sceau de l'Esprit sur l'Église. Je crois personnellement. Ça, c'est moi qui le dis. D'accord ? Cette marque qui nous est donnée nous identifie publiquement comme lui appartenant. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient, je sais pas moi, je mets un tampon, souvent on me demande, par exemple sur les lettres officielles, je mets le tampon et ma signature sur les lettres officielles de mon travail. Dernièrement, j'ai dû faire un courrier officiel à Dreal et j'ai tamponné et j'ai signé, j'ai mis mon sceau. Cette lettre, c'est moi qui l'ai signée. Cette lettre, c'est moi qui l'ai envoyée. Vous comprenez ce que je veux dire? Et quand Dieu met le sceau sur votre vie, par son esprit, quand il vous donne, il dit, un, cette personne m'appartient, n'y touche pas. Deux, cette personne, lorsqu'elle est dans un endroit, elle est comme envoyée par Dieu. Quand l'inspecteur de l'Adréal va recevoir mon courrier, il va dire, c'est Bruno Van der Merch qui a écrit ce truc. Je le reconnais en tant que tel. Et quand Dieu met le sceau en toi de son esprit, ça veut dire que quand, partout où tu es, personne ne peut dire que tu n'es pas envoyé de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? C'est-à-dire que lorsque tu es dans la rue, que tu pries pour les gens, lorsque tu chasses les démons, lorsque tu guéris les malades, lorsque tu pries pour des liens dans la vie des gens, tu es envoyé de Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin d'être rempli de l'esprit. Parce que souvent, on a baptisé les gens, souvent on a dit, c'est bien, tu t'es repenti, c'est une belle affaire. Deux, est-ce que tu t'es fait baptiser? C'est bien, tu es baptisé. Maintenant, on va prier. Et les gens se prennent des coups de pied au derrière par l'ennemi. Vous savez pourquoi? Parce qu'on les a envoyés sans être remplis de l'esprit. Et si on n'est pas rempli de l'esprit, il nous manque ça. Ah, je ne lance pas une accusation. Je ne dis pas, ouais, t'es pas rempli de l'esprit. Moi, je sens que j'ai besoin de plus de l'esprit de Dieu en moi. Mais je me dis, je ne veux plus me prendre des coups de pied au derrière par l'ennemi. Je veux être plein de l'esprit, parce que lorsque je serai là où Dieu me demande, et lorsque je ferai des choses en son nom, par la puissance du Saint-Esprit, il n'aura qu'à reculer. Il n'aura qu'à baisser les armes devant moi. Parce que j'aurai le sceau, parce que j'ai le sceau de Dieu sur ma vie. Est-ce que ça vous interpelle ce que je dis? Je continue ou j'arrête? Moi je continue, c'est bien. Attention, je n'avais pas l'intention d'arrêter. C'est le sceau reçu par les premiers disciples. J'ai pas d'autre. Je lis le livre des Actes, je tords dans toutes les Écritures, je lis même les commentaires avec lesquels je ne suis plus d'accord. J'ai une Scott Field, vous connaissez, je sais pas si vous connaissez le commentateur, le théologien. Je suis contre, j'ai barré. Je dis parce qu'il le texte dit ça et le commentateur dit autrement. Je n'ai pas d'autre preuve que cela, c'est le sceau qui est reçu par les premiers disciples. Ils s'étaient repentis, ils étaient baptisés, s'étaient engagés, et ils sont remplis du Saint-Esprit. Je n'ai rien d'autre. Venez me voir si vous trouvez autre chose, je veux bien, mais je ne trouve rien d'autre dans la parole de Dieu. Rien d'autre. C'est le sceau que les apôtres acceptaient dans l'expérience des autres. Il dit, ok, les gars, vous vous êtes repentis maintenant. Ben, on sait même pas qu'il y a un Saint-Esprit. Ils étaient ignorants. Alors parfois, on n'est pas rempli de l'Esprit, c'est parce qu'on est ignorant. Ou peut-être parce qu'on nous a enseigné des choses qui étaient fausses. Je pèse mes mots quand je dis ça. Peut-être qu'on a plus écouté les commentaires des Bibles plutôt que d'aller voir dans la parole de Dieu. Peut-être. Mais en tout cas, c'est le sceau. Paul dit, ok, vous êtes repentis. Ok, bah maintenant faites-vous baptiser. Ok, maintenant, soyez remplis de l'esprit. Ok, maintenant suivez-moi et devenez des disciples. Voilà, c'est pas plus simple que ça. On a tordu les choses. On les a compliquées. C'est simple, l'évangile est simple. La puissance de Dieu, c'est simple. Un, je me repens. Deux, je sais, je le répète. 2, je me fais baptiser. 3, je suis rempli d'esprit. 4, je peux devenir un disciple. C'est pas plus compliqué que ça. Dieu est simple et nous compliquons les choses. Et ils n'ont jamais demandé à notre sceau que celui-là. Ok ? Ici, qu'est-ce qu'on fait, des fois ? C'est bien. Moi, tu es un bon chrétien, tu es un bon disciple. Tu t'es repenti, tu t'es fait baptiser et tu sers dans l'église. C'est pas vrai ? Tiens, tu es à la sono, ok. Tiens, tu es à la vidéoprojection. Tiens, tu es à l'accueil, c'est bien. Mais le sceau que je vois n'est pas « je me repens, je me fais baptiser et je sers ». Le sceau que je vois, c'est « je me repens, je me fais baptiser, je suis rempli de l'esprit ». Dites-moi si je me trompe pas, hein, je suis prêt à me remettre en question. On a souvent envoyé les gens au service avant qu'ils soient remplis de l'esprit. Je suis désolé, et je l'ai fait. Mais ça va changer. Alors, l'épreuve est comment ce don est donné. Il fut rempli du Saint-Esprit et, ça c'est un peu les signes, c'est ce qui est écrit dans la parole. Je dis pas, c'est à vous de voir. Pour être sûr que vous êtes rempli de l'Esprit, il est écrit, ils parlèrent en langue selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils parlaient en langue. La première preuve. Ils prophétisaient et ils proclamaient les merveilles de Dieu. C'est-à-dire que quand ils étaient ensemble, pleins d'Esprit Saint, ça bougeait dans tous les sens. La preuve en est, le jour de la Pentecôte, on se demande s'ils n'avaient pas bu un coup de trop. Non, mais franchement, maintenant, enfin, moi, je vous regarde, parce que des fois, vous savez, je viens ici, j'observe comme ça. Permettez-moi de vous le dire, vous ne paraissez pas être des personnes ivres. Et tant mieux. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. Quelque part, je me pose la question, quand je suis ici, quand je suis réuni avec mes frères et sœurs, est-ce que je suis exalté pour Dieu ? Et franchement, je me suis examiné, je me suis dit, Seigneur, il est temps que tu me remplisses davantage de l'esprit. Je dois déborder tout à nouveau. Ce que j'ai vécu il y a 30 ans là, dans la Somme, je veux le revivre aujourd'hui. Je sais que je suis en train de bousculer vos... Le Seigneur m'a prévenu, hein, m'a dit, Bruno, tu sais, tu vas bousculer les cœurs ce matin. Parce que tu vas les remettre en question. Et vous savez, j'ai reçu cette vision tout à l'heure que des boulets qui partaient sur des murailles. Et l'apôtre Paul qui dit, nous renversons les forteresses. Je suis convaincu que ce que je suis en train de dire aujourd'hui est en train d'effriter des forteresses dans la vie des gens. Pour ceux qui sont ici, mais pour ceux qui vont écouter le message. J'en suis convaincu. Ils prophétisaient et ils proclamaient les merveilles de Dieu. Et regardez. Enfin, je sais pas, qui est rempli de joie ce matin ? Qui est rempli d'espérance ? Qui est rempli de paix ? Il y a quelques-uns qui sont remplis. Par la puissance du Saint-Esprit. C'est des signes, ça, dans la vie de quelqu'un. Si vous voyez une personne remplie d'inquiétude, posez-vous la question, vous êtes rempli d'inquiétude, je suis pas rempli de paix. Est-ce que aujourd'hui vous vous dites dans votre vie, c'est fini pour moi, je n'y arriverai pas. Posez-vous la question. Là, il dit, vous abondiez en espérance par la puissance de l'esprit. Est-ce que vos difficultés d'aujourd'hui vous empêchent de voir l'avenir avec espérance? Posez-vous la question. C'est vraiment important ce que je suis en train de vous dire. Moi, je me pose la question en ce moment. Et je suis en lutte par rapport à ça. Et je me dis, non Seigneur, j'abonde pas dans l'esprit. J'ai besoin de plus de toi. Ensuite, il est écrit, et ça c'est vraiment important. Vous avez tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Soit portugais, soit espagnol, soit ch'ti, soit belge, peu importe. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Regardez, quand l'esprit vient, quand l'esprit est répandu, et là je parle d'une manière individuelle et collective, et communautaire, ça pousse les gens à être ensemble. Ça pousse à l'unité. Pas simplement passer du temps ensemble, mais d'avoir un même but ensemble. Ça pousse. Regardez, le baptême de l'esprit vient. La Pentecôte arrive. Ils étaient tous les jours ensemble dans le même lieu. Ils priaient ensemble. Ils enseignaient. Enfin, ils écoutaient les enseignements des apôtres. Ils rompaient le pain ensemble. Ils étaient ensemble. Leur seul but, c'est d'être ensemble. Pourquoi? Parce que la puissance de l'esprit, lorsqu'elle vient vers quelqu'un, elle te pousse à être avec l'autre. Et beaucoup de gens ont été baptisés dans l'esprit. Ils ont oublié ça. Et ils ont fait du baptême du Saint-Esprit, leur baptême. Je suis prophète. Je suis. Ils en oublient les autres. C'est moi avant. C'est l'orgueil, vous comprenez. Ils ont attristé l'esprit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui l'Église ne vit pas cette puissance de l'esprit. Parce que Dieu voit, il lit dans les cœurs, et il voit, il dit, je ne peux pas envoyer ça maintenant. Parce que dans leur cœur, il y a de l'individualisme. Dans leur cœur, il n'y a pas de désir d'être en communauté. Dans leur cœur, c'est eux, moi, je veux moi, c'est mon ego. Et je pense que là, il y a matière à ce que nous nous repentions. Je vous le dis. Nous devons nous repentir parce que notre but souvent c'est d'être ceux et celles qui recevons. Et on a fabriqué, je peux vous le dire, c'est moi qui le dis, c'est pas la parole de Dieu. On a fabriqué des gens qui allaient dans des réunions, qui recevaient l'esprit pour eux. Alors que là, tu le vois bien. Là c'est l'écriture qui le dit maintenant. L'esprit est donné pour former un seul corps. L'esprit est donné pour que nous tenions les mains les uns les autres. L'esprit est donné pour que le peuple prie ensemble. L'esprit est donné pour que nous puissions manger le pain ensemble. L'esprit est donné pour que nous recevions l'enseignement apostolique ensemble, dans une même vision, avec un même cœur, un même esprit, une même âme. C'est ça que Dieu veut. Alors les preuves, les voici. Vous pouvez en trouver d'autres. Peu importe. Je vous ai donné les principales. Parler en langue, prophétiser. Ils glorifiaient Dieu. Et ils avaient un cœur ensemble. Tu peux parler en langue et être individualiste. Réfléchis. Tu peux prophétiser et ne penser qu'à toi. Ou te dire, j'ai raison et je me fous des autres. Pose-toi la question. Moi, je vois une preuve que Dieu veut nous unir les uns les autres. Ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque la parole de Dieu fut proclamée ou qu'ils priaient, ils demandaient que la promesse de Jésus se réalise. Il y a deux manières de recevoir l'Esprit. Deux. Ça vient d'en haut, dit directement du trône de Dieu. Paul, par exemple, c'est Pierre, je crois, avec Corneille. Je dis pas de bêtises. Pendant qu'il prêche la parole de Dieu, le Saint-Esprit tombe sur les disciples. Et puis là, dans le cas de Paul, aux Éphésiens, il impose les mains, il reçoit le Saint-Esprit. Deux manières de recevoir l'Esprit. D'en haut, moi, on a imposé les mains pour moi. Et puis, il y a d'autres fois où j'ai reçu un nouveau ce baptême. Des fois, c'est arrivé il n'y a pas longtemps. Lorsqu'on a prié chez vous, j'étais visité, inondé de l'Esprit. Personne n'a imposé les mains. J'ai reçu ça comme ça. Comment alors pouvons-nous le recevoir? Je suis pédagogique, mais je suis vraiment... J'insiste sur le fait, repentez-vous. Mettez en place des choses dans votre vie. Portez des fruits dignes de la repentance. Posez-vous la question les uns les autres, ou venez me voir, Bruno, qu'est-ce qui doit changer dans ma vie? Je vous dirai tout. Non, mais par exemple, j'ai une épouse, je pense que je vais lui poser la question cet après-midi. Qu'est-ce que je dois changer, chérie? Range tes chaussures. Quand je mets quelque chose sur l'escalier, s'il te plaît, monte-le. Non, des choses comme ça, mais vous comprenez ce que je veux dire dans nos réactions quand tu te lèves le matin, sois de bonne humeur. Repentez-vous, mettez les choses en place dans votre vie. Quelqu'un m'a dit, cette semaine, il m'a dit, Dieu m'a demandé de changer plein de choses. Ben fais, vas-y, changez. Des fois, on a des réactions sur le plan caractériel, des attitudes qui ne sont pas justes. Avez-vous déjà remarqué ça? Des fois, c'est dans le caractère, des fois, c'est dans des actions, des fois, c'est dans les petites choses, des fois, c'est dans les grandes choses. Mais peu importe, dès que le Saint-Esprit vous montre ça, c'est le Saint-Esprit qui vous convainc de péché, de justice et du jugement. Laissez l'Esprit entrer dans votre vie et vous interpeller par rapport à ça. Deuxièmement, s'engager à vouloir devenir disciple. Et je crois que nous devons nous sauver de cette génération perverse. Et je me suis posé la question ces derniers temps, et je pèse mes mots parce que je sais que c'est enregistré. J'ai dit à Jean-Luc et à quelqu'un d'autre, j'ai dit, je me pose des questions sur la volonté de cette Église à se laisser enseigner à devenir des disciples. Alors je me pose des questions, je ne vous jette pas la pierre. Hein. Mais qu'est-ce qu'on est prêt à abandonner pour être formé? Je vais vous donner mon témoignage personnel. Je me convertis en 89, 21 avril 89. On s'est fait baptiser en septembre. Je savais qu'il y a un centre de formation biblique à Roubaix. J'étais à l'époque en formation à Paris pendant un an. Je savais que je rentrais le septembre suivant. Ce sera pour moi un temps où je vais changer de boulot sur le plan professionnel, mais je vais voir mon pasteur. Et je lui dis, je veux aller au centre de formation biblique. Il me dit, t'es trop jeune. Dans la foi, ça n'ira pas. Je dis, ok. Il avait tort, hein. Que les choses soient claires. Parce que moi, j'entrais dans la dimension d'Éphésiens ici, hein, des Éphésiens. Il me dit, mais je me soumets à l'autorité. Je dis, ok. L'année suivante, il vient me voir au printemps, il me dit, le Seigneur m'a interpellé. Il dit, il faut que tu commences en septembre. Vous savez ce que j'ai fait pendant 4 années? Je travaillais la nuit. Je servais dans l'église. On avait un groupe de maison à la maison. J'avais mon fils, Geoffrey, qui était tout petit. Maryse était sur le point de... Quand j'ai commencé, était sur le point d'accoucher. Je me suis inscrit par la foi au centre de formation biblique. 4 années où c'était 20 heures minimum de travail, parce que j'étais perfectionniste. 20 heures de travail minimum. C'est vrai, Dieu m'a fait grâce. Je travaillais la nuit, j'avais du temps libre, je pouvais faire aussi la nuit. Je continue à servir, je continue à faire. Je vous dis pas ça pour vous dire que je suis meilleur. Mais je vous dis que dans mon cœur, parce que l'Esprit de Dieu me pressait, je voulais me former. Parce que je savais, et même si pendant ces 4 années, j'ai entendu des bonnes choses, j'ai entendu des horribles, et j'étais pas d'accord, et je suis toujours pas d'accord avec certains enseignements, néanmoins, ça a forgé mon caractère, ma capacité à résister dans et être endurant. Aujourd'hui, je suis capable de faire 36 choses, je suis multitâche, j'y arrive, sauf à la maison. Et, parce que j'ai vu, vous comprenez? Pourquoi? Parce que, j'avais le désir de me former. Ah, je sais. Et c'est la question, c'est ce que je disais avec Jean-Luc. On est dans une église avec une grande génération de trentenaires, avec des gens qui ont des enfants, qui ont un job, etc. Néanmoins, est-ce qu'on ne peut pas trouver quelques heures, je ne dis pas 20 heures par semaine, faites pas ce que j'ai fait, parce que je me suis éreinté pendant 4 ans, au point de devenir insomniaque, mais est-ce qu'on ne peut pas trouver quelques heures pour se former? 1 heure, 2 heures, je ne sais pas. Je vous pose la question. Vous répondrez, ça, c'est pas la parole de Dieu qui le dit, c'est Bruno. Ensuite, être assoiffé. Jésus le dit, Jean chapitre 7, je crois, que celui qui a soif... Moi, je peux vous dire, on a préparé le mariage le vendredi. Vous vous souvenez quand il a fait 38 degrés? Nous, on était dehors. Demandez à mon épouse, on était trempés, on a bu au moins déjà 3-4 litres d'eau sur place, je suis rentré, j'étais assoiffé. Quand t'as soif, tu bois. Je suis rentré à la maison, je suis allé dans mon frigo, j'ai pris une bouteille d'eau bien fraîche, il paraît que c'est pas bon, mais tant pis, et j'ai liquidé au moins 5 litres d'eau. J'avais soif que celui qui a soif. Alors, ce qui est incohérent des fois, c'est que je vois des personnes qui ont soif dans leur vie. et qu'ils ne se rendent même pas compte qu'elles sont déshydratées. Vous savez pourquoi ? Parce que la déshydratation, elle se voit trop tard. J'ai fait du vélo longtemps et je suis parti avec un ami, Code GG. On partait comme ça en vélo. Et GG m'a appris ceci. Il m'a dit, Bruno, quand tu fais du vélo, tu te mets une petite sonnerie sur ta montre, tu fais sonner et tu bois à chaque fois. Et il me disait, tous les 10 minutes, tu bois. Pas grand-chose, mais tu bois. Ça t'évitera la déshydratation. Et à chaque fois que je l'ai fait, j'ai jamais été déshydraté. Et une fois, nous sommes partis très loin, du côté du mont Kemmel, et j'ai pas suivi la consigne. Je suis rentré sur les rotules, à tel point que mon coach, GG, il me poussait en vélo. J'étais sans force. Et combien de gens font ça avec l'Esprit Saint ? Ils attendent que c'est cuit, si je peux dire, qu'ils sont cuits spirituellement, qu'ils n'arrivent plus à avancer pour boire. Que celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est aussi simple que ça. Il faut être assoiffé, il faut venir à Jésus, qu'il vienne à moi, aller vers Jésus. C'est-à-dire que si un jour je prie pour Dominique, pour qu'elle soit remplie de l'Esprit, en réalité, c'est vers Jésus. J'impose les mains, mais c'est Jésus qui baptise de l'Esprit. Demander, et ça c'est quelque chose que j'ai toujours eu du mal, moi, personnellement, mais bon, peut-être que vous n'avez pas de problème avec ça, dans mon identité peut-être. Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, votre Père Céleste vous donnera-t-il le Saint-Esprit à celui qui le demande. C'est-à-dire que comme moi, je suis loin d'être un Père parfait, je sais que j'ai un Père Céleste, et je donne des bonnes choses à mes enfants, enfin, je l'espère. Peut-être quand je fais à manger, c'est moins bon que leur maman, mais en tout cas, je sais que mon Père, qui est parfait, me donnera son Esprit. Et ça, ça doit tomber. Parce que souvent les gens disent, je ne suis pas digne. Moi, je suis pas bon, je donne des bonnes choses à mes enfants et je sais qu'ils ne méritent pas des fois. C'est pas vrai ? Quand je donne un cadeau à Noël, maintenant c'est plus des cadeaux, c'est des petites enveloppes, mais bon, je préfère du liquide. Quand je leur donne une enveloppe, est-ce que ça prouve leur perfection dans leur attitude à la maison ? Non, je leur donne parce que je suis mauvais et je sais donner des bonnes choses. Donc mon Père Céleste, qui est certainement meilleur que moi, et moi qui suis pire que mes enfants, il est suffisamment rempli de grâce, d'amour, pour me donner son Esprit. Ça doit tomber. Je vous le dis, je sens que l'Esprit, je dois insister là-dessus. Ça doit tomber dans vos vies, ça doit tomber dans ma vie. Dieu veut te donner son Esprit. Il veut te remplir de l'Esprit. Il veut t'immerger dans l'Esprit. Boire. Ouais, parce que il faut boire si tu as soif. Il faut le désirer. Et je peux vous dire que le jour où on a préparé le mariage de Timothée et Ophélie, je peux vous dire que j'ai ouvert la bouche et j'ai liquidé comme ça. Ça coulait. Tu sais, quand t'as soif, il faut boire. Tu vas pas juste te verser de l'eau dessus comme ça. Ça reste à l'extérieur. Il faut boire. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'ouvrir la bouche, capable de recevoir, capable de prendre ce que Dieu veut te donner. Et peut-être que on a serré ta bouche. Peut-être qu'on t'a dit une paille suffira. Peut-être qu'on t'a dit trempe uniquement le bord de tes lèvres. Mais c'est pas Dieu ce que Dieu veut te donner. Il ne veut pas juste humidifier tes lèvres. Il ne veut pas juste te donner à boire un petit peu avec une paille. Ce que Dieu veut faire, c'est ça. Qu'il boive. C'est ça. Et il veut que ça... Ben là, j'ai bu qu'un petit peu. Mais il veut vraiment te remplir. C'est ça que Dieu veut faire. C'était pas une bière, je vous ferai remarquer. qui boivent de l'eau de la vie. Laissez le Saint-Esprit prendre le contrôle. Alors là, j'insiste, parce que je sais que c'est une autre forteresse qui doit tomber. Il est écrit dans Jacques, si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux, cette circonstance, vu l'endroit où nous sommes, d'accord ? Il y a plein de dada ici. Pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. C'est intéressant, hein ? Moi, je suis émerveillé parce que l'autre fois, je me suis arrêté un petit peu, il y avait Julien, le patron d'ici, du centre équestre, il avait son beau cheval et puis je le voyais comment il tirait sur les rênes et comment il dirigeait son cheval. C'était vraiment, je voyais vraiment une osmose entre le cavalier, j'allais dire le pilote, le cavalier et le cheval. Vraiment, c'était très beau à voir. Il dirigeait le corps du cheval tout entier. Pourquoi ? Parce qu'il met le mort ici. C'est ça qui dirige le cheval. Et voici, même les navires qui sont si grands et dont les vents impétueux les dirigent, ont un petit gouvernail. Ils sont dirigés par un petit gouvernail. En casser le gouvernail d'un bateau, le bateau ne se dirige plus. Vous le savez ça, enfin, je suppose. De même, la langue est un petit membre. La langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu pour embraser une grande forêt. Pourquoi je parle de la langue ? Parce que le premier signe, quand nous sommes remplis de l'esprit, je disais, ça déborde. Et c'est comme si, écoutez ce qui est écrit dans le texte de la Pentecôte, il dit que les gens exprimaient des prophéties et des parlaient en langue selon ce que l'esprit leur donnait de s'exprimer. C'est-à-dire que c'est l'esprit qui prend le contrôle de la langue. Il prend le contrôle de ce qui sort de ma bouche. C'est-à-dire que, en faisant ça, si je m'en tiens au texte de Jacques, je dis en fait, le Saint-Esprit est en train de prendre le contrôle de ma vie.
Limitation de vitesse plus 5 km/h, je sais que ça correspond à une limitation de vitesse.
Mais ça, c'est un problème pour moi.
Officiel. 135, c'est 130,
vous
en fait.
Moi,
Marie, c'est 120, 125.
Et ça
parce
me
que quand
perturbe.
Je monte dans ma voiture, je veux tenir le volant.
Tu conduis pas assez vite.
Faut demander à Marie. Hein.
Parce que je n'ai plus le contrôle. Vous comprenez ? Et quand ça c'est un obstacle à quelqu'un qui a besoin d'être immergé dans l'esprit. Parce que regardez, le Saint-Esprit vient sur les disciples, il prophétise, il parle en langue. Et ce qui fait peur dans le parler en langue, ce qui fait peur lorsqu'il y a des choses qui débordent de ma vie, et ça c'est un blocage dans la vie des gens. Ça a été un blocage dans la vie de pas mal de personnes que je connais et que j'aime. Et parce que les gens... Parce que les gens ne vont plus contrôler ce qui se passe. Vous comprenez ça ? Et parce que tu ne contrôles plus, tu fermes la bouche. Tu fermes ton cœur. Et tu ne veux pas que l'esprit prenne le contrôle de ta vie. Et c'est l'esprit de contrôle. Je pèse mes mots quand je dis ça. C'est Bruno qui le dit, c'est pas la parole. C'est l'esprit de contrôle qui empêche les chrétiens de recevoir et d'être immergés dans l'esprit. Ce que je vous dis là, je vous demande simplement de réfléchir, de prier, et puis peut-être, je dis pas que c'est ça dans votre vie, mais ça peut, peut-être, sûrement, je ne sais pas. Réfléchissez, prenez tout ce qui a été dit ce matin, s'il vous plaît, et faites un retour sur vous-même, placez-vous devant le Seigneur, écoutez-le, et dites-lui où est-ce que j'en suis par rapport à tout ça, Seigneur. Et vous allez voir. Les choses vont changer. Vous allez voir, quand vous allez vous repentir de cet esprit de contrôle, ça va bouger. Quand vous allez commencer à comprendre que peut-être il y a encore des choses à changer dans votre vie, ça va changer. Quand vous allez vous commencer à vous repentir, ça va changer. Quand vous allez vous engager davantage, oui, vous êtes fait baptiser, mais vous comprenez ce que je veux dire, s'engager avec Jésus, vouloir devenir un disciple avec Jésus, ça va changer. Et lorsque tout cela va, Dieu va voir votre volonté d'y aller, et ça, il va vous remplir de l'esprit. Vous savez ce qu'on va faire ? On va pas le faire aujourd'hui, mais au mois de septembre, on va avoir des réunions. Ce sera le jeudi, ici, le temps que les groupes de maison se mettent en place, de toute façon. Le jeudi, ici, 19h30, on va avoir des temps de prière, des temps où on va pouvoir se repentir, des temps où on va
renouveler notre engagement avec le Seigneur et d'être, on va demander d'être rempli de l'Esprit. Vous savez, je relisais une prophétie, je l'ai là dans ma Bible, je la lis tous les jours. C'est une jeune femme qui m'a donné cette prophétie il y a environ un mois. Elle est venue me voir à la maison, elle m'a dit, voilà Bruno ce que Dieu a projeté pour Betzalel. Et vous savez ce qui était écrit dedans? Dieu veut remplir. Dieu veut envoyer son esprit. Dieu veut donner sa puissance. Et il a tout fait. Tout a été accompli pour que nous recevions ces choses. Tout, tout, tout. Il n'y a aucun obstacle. Ne croyez pas. C'est juste des petits rappels, hein, ce que je vous dis. Aucun obstacle à la volonté de Dieu. Et il a dit, je répandrai, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Moi, quand le Seigneur donne sa parole, il l'accomplit toujours, il est fidèle, nous le chantons tout le temps. Il va le faire. Simplement, ce que je crois et ce dont je suis convaincu, c'est que là, les disciples à Éphèse, il leur manquait quelque chose. Ils n'avaient même pas entendu dire qu'il avait un esprit, que le Saint-Esprit existait. Il leur manquait des enseignements. Il leur manquait des révélations de la parole de Dieu. Il leur manquait des vérités pour que ces vérités soient en eux et qu'ils puissent dire « Oui, c'est ce que je veux, Seigneur. » Alors je ne vous fais pas peur en disant que, bien sûr, quand le Saint-Esprit vient, ça met du désordre dans notre organisation. Ça chamboule notre vie. Ça chamboule les choses. Forcément, parce que c'est plus nous qui conduisons les choses. Nous ne faisons que, allez, peut-être accompagner ce que Dieu fait. Mais c'est tellement bon. Je vais vous dire une chose. J'ai vécu depuis un mois et demi maintenant avec Timothée. Je vous ai déjà raconté le témoignage de comment le Seigneur a fait. Et je le disais à Damien cette semaine, je dis c'était extraordinaire. J'avais l'impression qu'on survolait les choses. On a vécu notre famille avec ce que Dieu a fait pour Timothée, Ophélie, pour le boulot, pour l'appartement, etc. C'était fou. C'est comme si on était dans un couloir et qu'on n'avait même pas besoin d'ouvrir les portes pour atteindre les autres pièces. Les portes s'ouvraient devant nous. Moi, je me suis battu. Tant de fois, j'ai retrouvé des portes fermées parce que j'ai agi avec mes propres forces. Et je vous rappelle ce que Dieu a dit à Zorobabel, alors qu'il fallait reconstruire pas mal de choses à Jérusalem. Il a dit, Zorobabel, ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Je souhaite que Betsalé soit construit, rebâti, édifié sur cette dimension-là, par la puissance du Saint-Esprit. Priez pour ça cette semaine. Demandez au Seigneur plus de toi, Seigneur, dans ma vie. Et ne rejetez toute forme de rejet. C'est ce que Dieu veut pour vous. C'est ce que Dieu veut pour moi. Il veut que je sois plein de son esprit, rempli, immergé de son esprit. Priez pour cela cette semaine. Commencez. Vous allez voir, les choses vont commencer à bouger. Dieu accompagne toujours sa parole. Toujours.